Morning Edition from NPR News.
France Inter. Le 18-20.
Et ce soir, nous allons en Afghanistan où, vous le savez, les femmes doivent se cacher encore un peu plus. Si elles pouvaient même rester chez elles, ce serait aussi bien, disent les talibans, qui exigent donc que les visages se cachent, que la burqa revienne la norme. Vous écouterez ces femmes courageuses dans un tout petit instant. Le bruit du monde est au Sénégal où la première pierre d'une usine de dessalement sera posée à Dakar à la fin du mois, mais une usine accusée d'être contraire à toutes les règles de l'environnement. Le bruit du monde, la suite, sous les radars, Sébastien Logeni a trouvé un Sud-Africain ex-Facebook qui dénonce les pratiques de son entreprise, des soldats colombiens prisonniers des trafiquants de coke et une Pussy Riot qui quitte la Russie déguisée en livreuse de pizza. 18h50, c'est le cinéma en VO et Corinne Pellissier avec Detroiters, un documentaire qui raconte Détroit et ses habitants après sa très très longue remontée, 15 ans après la crise des subprimes. Et puis 18h55, le monde d'après de Jean-Marc Four, quand l'obstination chinoise sur son zéro Covid met toute l'économie mondiale en danger. Le monde est vasté, on n'a qu'une heure, bonsoir.
Fabienne Sintès. Un jour dans le monde.
Bonsoir Chekeba Hachemi.
Bonsoir.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et présidente de l'association Afghanistan Libre. On vous a déjà entendu, bien sûr, sur cette antenne. C'est important de vous réentendre, de garder contact avec les Afghans. Votre association, qui a plus de 25 ans, vous aviez déjà raconté que vous l'aviez mise en sommeil parce que vous considérez que vous ne pouvez plus fonctionner dans l'Afghanistan d'aujourd'hui. Cette dernière décision tellement symbolique, Chekeba Hachemi, le retour obligatoire du voile et de la burqa, et ce serait même mieux si elle restait chez elle. Ce sont vraiment les phrases des talibans. Vous le saviez qu'on y allait tout droit. Toutes les Afghanes comme vous, qui connaissent ce pays, qui connaissent les talibans, savaient que de toute façon on y allait, non ?
J'aurais tellement voulu vous dire que j'avais tort et que l'Occident avait raison quand il nous dupait avec tous ces termes de négociation face à des gens capables de négocier, de discuter, qui sont ces talibans, que malheureusement nous connaissons si bien, nous les Afghans, surtout les Afghanes. Pour nous, les talibans 96-2001 et les talibans 15 août 2021, ce sont les mêmes. Simplement, ils ont eu quelques années pour un peu se forger une communication un peu mieux et avoir des soutiens des voisins du Pakistan, du Qatar et d'autres pays. Et malheureusement, ce que nous voyons là, le symbole, si vous voulez, le symbole de l'oppression des Afghanes, qui est ce vêtement, ce tchadri, ce vêtement bleu qui les recouvre de la tête aux pieds, ce n'est que l'aboutissement en fait de tous les interdits depuis le 15 août. N'oublions pas que le 16 août, les talibans annonçaient que les femmes ne pouvaient plus travailler ni recevoir un salaire. Dans un pays où 60% des foyers sont tenus par des chefs de famille qui sont des femmes avec leur seul salaire, ils ont décidé qu'elles ne pouvaient plus exercer leur métier, ne pouvaient plus toucher de salaire. Et le 21 mars de cette année, le premier jour de la rentrée scolaire, on a eu l'interdiction de toute forme d'éducation pour les petites filles et les femmes. Et donc ce symbole de tchadri, il y a trois jours, en disant, effectivement, comme vous l'avez si bien dit, si elles pouvaient rester à la maison, et d'ailleurs, les sanctions sont faites pour qu'elles ne sortent pas de chez elles, puisque, voilà, il faut trouver la raison valable, je ne sais pas ce que ça veut dire. Bah, pour nous, ce n'est que l'aboutissement de ce goutte à goutte d'interdit depuis le 15 août.
Vous dites, Chekeba Hachemi, qu'on s'est fait berner, en fait, nous, la société internationale. Vous croyez vraiment qu'on l'a cru et qu'on a tout fait pour les croire, ces talibans?
En tout cas, ça nous a arrangé de le croire, de nous faire croire en ces termes, déjà de les mettre sur des tables de négociation depuis 2 ans et de les considérer comme des partenaires de négociation, alors que nous dénonçons ça, nous les Afghans, depuis déjà 2019, que ce sont des terroristes et c'est leur seul geste aujourd'hui d'interdire toute forme de vie des femmes à l'extérieur de leur foyer, ça montre bien. Et c'est le régime le plus radical et le plus fondamentaliste qu'on connaisse. Et puis, il y a aussi autre chose. Vous savez, les femmes dénoncent et elles sont encore debout. Et moi, je pense à elles parce qu'elles sont courageuses et elles n'abandonnent pas. Pourquoi ? Parce qu'elles avaient déjà vécu les talibans 96-2001 et donc elles préfèrent mourir. C'est ce qu'elles font aujourd'hui en restant encore debout et à manifester. Et nous, la communauté internationale, on continue à dire... Nos chefs d'État, il y a encore quelques temps, européens, qui disaient « Nous discutons avec les talibans, mais notre condition sine qua non, ce sont les droits des femmes. » Alors, on attend quoi, maintenant ?
Mais alors, qu'est-ce que ça veut dire, en fait, à votre avis ? Est-ce que ça veut dire que, de fait, les talibans se disent « Non, mais de toute façon, on s'en fiche, en fait, on ne se cache même plus, on se fiche complètement de ce que dit la communauté internationale, on ne cherche même plus à donner le change en quoi que ce soit, c'est comme ça et pas autrement. » Vous pensez que c'est ça, le message ? Ou c'est quelque chose qui nous dit, nous, à la communauté internationale, « Allez-y, maintenant, si vous l'osez, coupez-nous intégralement toutes les vivres ?»
Non, moi je pense surtout que ce n'est pas un régime politique, ce sont des différentes factions de terroristes, et leur seul but c'est une reconnaissance internationale. Et donc les femmes sont prises comme objet de chantage avec la communauté internationale. C'est comme ça que depuis le 15 août, ils font petit à petit les interdits pour les femmes. Ils n'ont pas fait tout d'un coup en 96, parce que comme je vous disais, aujourd'hui ils savent communiquer. Et donc leur seule envie aujourd'hui, c'est de se faire reconnaître officiellement par la communauté internationale, et ils prennent les femmes en chantage, et ils n'en ont rien à faire que la population soit détruite, puisque quand vous détruisez les femmes dans une structure, dans une société où il y a plus de 25 millions de personnes sur 38 qui est en dessous de seuil de pauvreté aujourd'hui, c'est-à-dire la plus grande crise humanitaire mondiale aujourd'hui est en Afghanistan, on n'arrive pas à leur donner à manger, à envoyer de l'argent et à les nourrir ces personnes, et elles restent quand même debout. Et donc les talibans, leur message c'est très fort, c'est qu'on tient, voilà, c'est une monnaie d'échange pour pouvoir avoir une reconnaissance internationale. Et j'espère qu'on ne tombera pas dans ce panneau-là, parce que de toute façon, ce sont les mêmes avec ou sans reconnaissance internationale, ça serait très grave de les reconnaître.
Et aujourd'hui... Pardonnez-moi, on va revenir là-dessus tout à l'heure dans un tout petit instant, mais je voudrais quand même, et vous allez évidemment rester avec nous, vous présentez une jeune femme qui s'appelle Ra, justement, et qui est tout à fait symptomatique de ce que vous venez d'écrire. Elle a 21 ans, elle a évidemment tout arrêté, à la fois ses études et son travail, lorsque les talibans sont revenus. Elle envoie régulièrement des notes vocales à Caroline Gillet, et voici ce qu'elle disait précisément hier, voici ce qu'elle a tenté de faire.
Hello everyone. Good morning. Hope everyone. Salut tout le monde, j'espère que tout va bien pour vous et que vous passez une belle journée. Moi je suis assise dans le sous-sol d'un membre de ma famille là. Après l'annonce des talibans sur la burqa, je suis sortie de la maison avec mes habits normaux. J'avais un hijab et c'est tout. Mais un taliban a arrêté la voiture au point de contrôle et m'a dit de porter le hijab. Pas le hijab de l'islam, mais le hijab que les talibans ont ordonné aux femmes de porter. Ils ont dit qu'ils puniraient les hommes du foyer. Donc je devais couvrir mon visage, soit avec un masque, soit avec mon foulard, juste pour protéger mon père. Mes frères sont jeunes, donc juste pour la sécurité de mon père, j'ai dû le faire. Avant j'avais des rêves, des espoirs. Mais là, avec ce nouvel ordre, je n'arrive plus à imaginer de futur ici, ni pour moi, ni pour ma famille, à moins de quitter le pays, de fuir. I have nothing left to be hopeful.
Ici, il ne me reste aucune raison d'être optimiste.
So, yeah, that sounds coming from the...
Ce que vous entendez là, c'est l'appel à la prière qui vient après le déjeuner. C'est le Adhan de l'après-midi. En entendant cette prière, j'espère que Dieu mène à la ruine ce gouvernement stupide. S'il vous plaît, ne nous oubliez pas dans vos prières. Ne nous oubliez pas. Faites-vous entendre.
Formidable Ra qui sort chez Keba Hachemi en signe de provocation sans sa burqa et qui doit la remettre. Et c'est ça qui est fou, c'est hélas bien vu de la part des talibans, jouer sur la famille, faire porter la faute sur les hommes de la famille pour celles qui essaieront de tromper la loi.
Quand il y en a des hommes, ouais. Parce qu'il y a des familles où il n'y a pas d'hommes, et donc ça veut dire que ce sont les femmes, elles sont punies directement. Et ce que je connais très bien, c'est très touchant ce que dire. Et il faut que vous sachiez que 75% de la population afghane est de la génération de cette jeune femme aujourd'hui. Mmh. C'est-à-dire que c'est la population est courbe de vie comme ça se fait dans les pays post-conflictuels. Donc aujourd'hui, 3/4 de la population a moins de 25 ans. Mmh. Toute cette génération qui n'a pas connu les talibans version 1 et qui sont en train aujourd'hui de vivre l'horreur. Et c'était des gens qui ont eu pendant 20 ans une ouverture vers l'extérieur. Pendant 20 ans, l'Afghanistan s'est ouvert à l'extérieur. Voilà, ce sont des jeunes filles que nous avons éduquées à Afghanistan Libre, plus de 300 000 jeunes filles qui aujourd'hui faisaient, le 13 août 2021, étaient encore en direct par Skype pour faire du coding ou digital coding. Et ces jeunes femmes sont aujourd'hui à l'intérieur en murée vivante. Et si elles prennent le risque d'être debout, c'est que le frère ou le père ou le mari va être assassiné. Et c'est ça la réalité, si ce n'est pas elles. Aujourd'hui, il y a des femmes qui ont manifesté hier, qui la moitié sont dans les prisons, on ne sait même pas où elles sont, les familles n'ont aucune nouvelle. Et malgré ça, elles restent debout. Et quand on me dit les femmes afghanes résistent, mais vous rendez compte, cette leçon de vie et de courage, elles n'ont rien à manger et elles sont debout, comme cette jeune femme qui continue à envoyer des messages tout en sachant qu'elle risque sa vie et la vie de son père.
Et quand vous parlez, et quand vous parlez de ces courageuses chez Kebashimi, je vais vous en présenter deux ou trois autres. Il y a ces professeurs aussi qui ont rouvert des classes clandestines, exactement comme elle le faisait il y a plus de 20 ans dans la première époque des talibans. Elle se rassemble évidemment en cachette. Et là, nous sommes à Herat, qui est réputé comme un des lieux les plus progressistes du pays. Je mets beaucoup de guillemets derrière ce progressisme, mais c'est un peu le cas ici. Les noms, bien sûr, ont été changés. Le reportage, lui, il est signé Sonia Kedzali, qui est la correspondante de RFI en Afghanistan.
Fatima is sitting behind you. Fatima, dar pahlui tu nishaste, nishaste has.
Une vingtaine de jeunes filles entre 12 et 19 ans assistent à ce cours d'anglais en toute illégalité. Mariam était enseignante d'anglais de Dari dans un lycée d'Herat avant la prise du pouvoir par les talibans. Elle accueille désormais les jeunes filles dans la cour de sa maison.
Elles étaient mes élèves à l'école publique, par exemple elle et celle-ci.
Les collèges et les lycées qui devaient rouvrir leurs portes en mars dernier sont toujours portes closes, malgré les promesses des talibans.
Je suis une femme, je suis une mère, je ne peux pas rester comme ça sans rien faire à la maison. Quand les hommes étudient, c'est juste pour eux. Mais quand une femme étudie, c'est aussi pour la société, car elle éduque les enfants qui la formeront. Ce que je fais est dangereux, je mets ma vie en danger, mais c'est nécessaire, même si je risque d'être arrêtée pour ça.
Malgré la peur, Mariam veut garder le sens de l'humour.
Attention les filles, nous sommes des criminels.
Chaque mois, Mariam paye les transports des élèves les plus pauvres ainsi que leurs cahiers et leurs stylos. Elle utilise pour cela son salaire qui s'élève à 10 000 afghanis, soit environ 100 euros, qu'elle continue de recevoir. Sur des tapis au sol, les élèves suivent le cours, attentives. Parmiel Mursal, âgée de 18 ans, elle confie être démoralisée.
La vie est devenue si difficile pour nous les filles en Afghanistan. On ne peut pas sortir de la maison seule, on a toujours peur. C'est très difficile de vivre dans ces conditions.
Mais elle refuse de renoncer à ses cours clandestins. Elle rêve de devenir avocate pour défendre les droits des femmes en Afghanistan.
Et là aussi, de vraies courageuses chez Keba Hashemi. Au moment du revirement sur l'école, on avait cru, montré, en tout cas, vu des tiraillements chez les talibans entre les très très rigoristes et d'autres peut-être un peu plus ouverts. Est-ce que cette victoire des rigoristes vous semble totalement définitive? Savez-vous s'il y a encore des tiraillements? Est-ce qu'il y a le moindre espoir derrière ça?
Écoutez, leur soutien, qui est le Qatar et le Pakistan, essaye de leur montrer que de temps en temps, il faut lâcher du lest, si je peux me permettre l'expression, pour pouvoir avoir cette reconnaissance, cette fameuse satanée reconnaissance, qui leur permettrait d'être officiellement le régime qui gouvernerait l'Afghanistan, qui ne l'ont toujours pas, et cette reconnaissance leur permettrait d'avoir une légitimité auprès du peuple pour l'asseoir, et ce qu'ils n'auront pas, bien évidemment. Et moi, je ne crois pas absolument aucun mot de tout ce qu'ils disent, que ça soit les et pas laisser. Je pense simplement que ce sont des terroristes en face de nous. C'est pas un régime. Ce sont pas des gens capables de négocier, de discuter. C'est des gens qui sont capables d'envoyer une flèche tire dans la seconde où ils voient une femme qui a enlevé son foulard. Il l'a tuée dans la seconde. Donc ce sont des animaux pour nous. Et les Afghans le savent. Et vous savez ce qui me dérange dans ce que j'entends de Mariam, et j'en ai pas mal sollicité des femmes pour qui essayent de mener un peu que la vie continue à aller à la maison. C'est qu'en 96 nous avons fait ça, ne serait-ce que dans le cadre d'Afghanistan libre. De 96 à 2001, nous avons financé certaines écoles clandestines parce qu'on était dans l'espoir du demain et que ça allait changer. 20 ans d'ouverture vers l'extérieur, 20 ans d'apprentissage. Aujourd'hui, la plupart des Afghanes me disent de Kaboul et d'ailleurs, on ne veut pas être clandestine. On veut avoir ce droit élémentaire qui est le droit universel. Nous ne voulons pas être des clandestines à nouveau. Pourquoi faire? Combien de générations nous passerons à être des clandestines? Nous voudrions être des femmes dans la rue à manifester parce qu'on voudrait nos droits le plus élémentaires et pour nos enfants et pour nous. Et donc aujourd'hui, entendre ça, c'est tellement triste de voir qu'en fait l'histoire ne fait que se répéter. Et là, par contre, ce qui change, et heureusement qu'il y a des chaînes comme vous qui continuez à parler, ce qui change, c'est qu'aujourd'hui, on ne pourra pas dire « on ne le savait pas ». On le sait, la communauté internationale. Vous savez, toutes les institutions internationales. Où est l'ONU aujourd'hui? Où est l'ONU Femmes aujourd'hui? Où est le commissaire aux droits de l'homme aujourd'hui? Pourquoi est-ce que ces personnes ne sont pas à Kaboul en train de demander des rapports et de rendre compte à ces gens qui ont été hier à des tables de négociation? Pourquoi est-ce qu'il y a ce silence si lourd aujourd'hui du monde occidental par rapport à ce qui se passe en Afghanistan? dans lequel nous sommes impliqués. Et je ramène le débat des femmes afghanes à un débat tout à fait français-européen qui nous touche. N'oubliez pas que le 16 août 2021, le premier geste symbolique des talibans, ceux-là même dont on parle aujourd'hui face à ces femmes, a été d'ouvrir les prisons de Bagram avec 7500 djihadistes du monde entier. C'était aussi un symbole pour montrer que ça va devenir le laboratoire de fabrication de djihadistes, ce pays. Mmh. Et ce n'est pas le nôtre. Le nôtre, ce sont ces jeunes filles, c'est Raya, c'est Mariam, qui sont aujourd'hui des juges, des journalistes, des médecins, et qui continuent à essayer d'exercer, à exister, à ne pas être emmurées vivantes. Et face à ça, nous avons de l'autre côté la crise la plus grande humanitaire. Et alors là, ce que je ne comprends pas non plus, qu'est-ce qui s'est passé dans le cas d'Afghanistan pour qu'aujourd'hui on arrive à confondre discussion et négociation. Comment se fait-il que les organisations internationales impartiales qui depuis des décennies apportent une aide alimentaire, humanitaire dans tous les pays du monde, y compris là où il y a des terroristes, là où il y a des dictateurs, comment ça se fait qu'aujourd'hui cette aide n'arrive pas en Afghanistan, cette aide alimentaire n'arrive pas aux Afghans et aux Afghanes?
Et c'est une question qui reste hélas en suspens chez Keba Hachemi, mais c'est promis, ici on continue à en parler de ces femmes afghanes, on continue à recevoir des petites notes vocales et à y aller aussi prendre des nouvelles. Merci beaucoup, merci vraiment de votre passage dans Un jour dans le monde.
Le 18-20, Fabienne Saint-Ès. Sur France Inter.
La suite, ce soir, c'est le bruit du monde. Ça se passe au Sénégal, dans une future usine de dessalement qui pose de sérieux problèmes environnementaux. C'est ce que disent les Sénégalais. Et pour aller jusqu'à 19h, sous les radars, Sébastien Logénie.
Un Sud-Africain porte plainte contre Facebook. Il dénonce les conditions de travail des modérateurs sous-traités au pays du Sud.
Le cinéma en VO, c'est Corinne Pellissi. On parle de Détroit, pas encore remise de la crise des subprimes, qui a plus de 15 ans. C'est un documentaire qu'elle nous présentera. Et puis le monde d'après, c'est vous, Jean-Marc Four. Bonsoir, Jean-Marc.
Bonsoir à tous. L'entêtement, le déni chinois sur la stratégie zéro Covid commence à avoir des effets en chaîne sur toute la planète et on en vient à se demander si ça ne peut pas se retourner contre le président Xi Jinping.
Allez, à tout de suite tout le monde, le tour de la planète n'est pas fini, il fait un détour par le Royaume-Uni. Kate Tempest, More Pressure sur France Inter, c'est un poète et artiste phare du slam outre-Atlantique.
More pressure, more release, more relief. More belief, more distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. I know nothing, I used to think things were so clear. I was so near to nowhere, I could feel everything in me. Pushing for certain, certain's a flimsy. Rock solid ground beneath me now tells me there's no ground at all. More pressure, more release. Your eyes, your cheeks, your features crease. More desire, less deceit, less complex, more complete. Let's push more flow, please let me let go. Get it all out of you, let it surprise you. I was in a party face, mostly eyeballs. Chin deep in a bag of white lies, saying I'm sick and tired of my own advice. I see it now, so perfect, but so hard to put into practice. One step forwards, two steps backwards. One soul's epiphanies, another soul's madness. I saw the truth in the curls of the vanishing girl. Hands like cobwebs dangling, eyes like deep sea dives. She said, stop worrying, man, stop panicking. Karma. Clearer, closer, nearer. More grounded, more rooted, less convoluted. More stillness, more movement, more existence, less improvement. More decisions, less solutions, less inhibition, less confusion. More intuition, more connection, more nature, more protection. More abundance, more reflection, less instruction, more comprehension. More pressure, more release, more relief, more belief. More distance, more reach. The truth is, I don't know, it's so deep. More pressure, more release. More relief, more belief. Less push, more flow. Please, let me let go.
Le bruit du monde, ce soir, est au Sénégal, face à ce qui va bientôt être une usine de dessalement sur le littoral de Dakar, au pied de la colline des Mamelles. Ce projet, financé à hauteur de 209 millions d'euros par l'Agence japonaise de coopération internationale, doit permettre de régler un problème de coupure d'eau majeure à Dakar et de répondre à la très forte demande en eau potable. Mais les riverains dénoncent une véritable catastrophe écologique qui va détruire, disent-ils, le littoral de la capitale sénégalaise. Et le reste, c'est Théa Olivier qui raconte.
Assis à l'ombre sur des banquettes fabriquées à partir de palettes recyclées, Saliou et ses amis font face à la mer, au bord de la plage des Mamelles et de son sable blanc. Ils s'opposent au projet de l'usine de dessalement qui s'installerait au niveau de l'une des dernières plages gratuites de Dakar.
Moi, je préfère qu'on laisse ici la plage pour tous les gens. Parce que ici, n'importe qui, si tu as l'argent, tu peux venir. Si tu as 2000 francs, tu peux venir pour faire la fête, pour profiter. C'est ouvert pour tout le monde, oui, c'est ça. Mais si on détruit ici, après, on va faire quoi? Toutes les plages, on l'a privé. Toutes les corniches, on l'a privé. Mais nous, les Sénégalais, après, on va faire quoi? On n'a pas de l'argent pour les plages privées. On n'a pas de l'argent.
Depuis quelques semaines, Amadou Maguette Dieng, que tout le monde surnomme Max, a donc ressorti les panneaux rouges et blancs avec l'inscription « Non » à l'usine de dessalement devant son restaurant qui risque de disparaître. Tous les dimanches, il fait tourner une pétition afin de sensibiliser les usagers sur les dangers de cette usine.
El Hammam, c'est la plage la plus propre, la plus sauvage qui reste sur Dakar. Nous, tous ces impacts-là, il y aura la pollution sonore, il y aura la pollution odorat, ça paraît du sel qui vont résister dans la mer. Nous, on trouve ça normal et on riposte, on dit non à l'usine de dessalement. Et nous, on ne veut pas de l'argent, on ne veut pas de dommagement, on ne veut pas de pollution, on ne veut pas qu'ils détruisent notre environnement. Dakar est assez pollué. L'usine de dessalement est la dernière chose qui est venue pour détruire le petit poisson qui reste sur la place des mamelles.
Mais la construction de cette usine de dessalement d'une capacité de 100 000 mètres cubes par jour est un mal pour un bien pour certains acteurs de la plage, comme Khadija Wad, restauratrice qui fait griller des poissons les pieds dans l'eau.
À Dakar, on a des problèmes d'eau. Des fois, à la maison, l'eau, ça coupe et si ça vient, ça fait marron avec de la saleté. D'un côté, ça nous a arrangé. Le fait que nous, quand on quitte, on nous dédommage, on peut investir sur d'autres choses.
Une fois l'eau de mer transformée en eau douce, l'usine de dessalement rejette de la saumure, c'est-à-dire de l'eau chaude très concentrée en sel. Ce résidu est nocif pour l'environnement et pour les écosystèmes marins et les impacts ont été sous-estimés selon un rapport des Nations Unies. Les pêcheurs sont donc inquiets pour cette zone de reproduction des poissons. Gourassen est responsable du quai de pêche de Wakam, un village traditionnel au pied de la colline des Mamelles.
La mer n'est pas une poubelle, donc il faut qu'on le sauvegarde. On est fatigué, nous les pêcheurs. Ce n'est pas une raison de mettre une usine de dessalement ici dans nos zones de pêche. Ce n'est pas normal. Là où on a présenté l'usine de dessalement, c'est une zone intéressante parce que c'est une zone de reproduction qui fait le calamar, le cerf. Il y a les zones qui font les langoustes, les moules. Beaucoup de façons de fruits de mer. Et après, ça ne peut pas vivre avec cette façon d'eau-là. L'eau-là, ce n'est pas pour les poissons. Après, l'usine dessalement, ça détruit la mer. Nous, on ne connaît que la mer. Et mes enfants, après, qu'est-ce qu'ils font?
Omar Diagne, président de l'association SOS Littoral, rappelle aussi que le site des Mamelles est protégé par la loi des monuments historiques.
Et cette loi dit que le site est un patrimoine historique parce qu'il y a un volcan qui date de l'ère quaternaire de type Péléon. Le site du phare des Mamelles est un site archéologique parce qu'il y a des roches stratifiées et patrimoine sacré. Et en Afrique, la croyance elle est extrêmement importante. Donc voilà un site qui a toutes ses caractéristiques protégées par une loi qui est profanée en quelque sorte.
El Hadjadan Dao de la Société nationale des eaux du Sénégal, la SONES en charge du projet, se veut rassurant sur les impacts de cette usine.
Nous ne construisons pas des hôtels. Nous parlons d'usine de dessalement de l'eau qui va fabriquer de l'eau source de vie. C'est un investissement public d'intérêt général. Il n'y a aucun risque parce que la dilution donc de ces saumures à ce point de rejet, la profondeur idéale de 20 mètres permet déjà de pouvoir retrouver les mêmes caractéristiques de l'eau de mer en termes de salinité mais également en termes de température.
Le directeur des travaux de la SONES précise aussi que la plage restera accessible, sauf pendant la période des travaux.
Il y aura des perturbations pendant la phase de construction. C'est la raison pour laquelle les pertes d'exploitation qui seront observées vont faire l'objet de compensations. C'est pour cela qu'ils ont été convoqués par les autorités administratives pour discuter sur les mesures de compensation. À la fin des travaux, des aménagements sont prévus pour mieux permettre l'accès à la plage, notamment une piste piétonne qui sera réalisée.
La première pierre sera posée le 31 mai pour une mise en service de l'usine en 2025.
Voilà, c'est donc demain. Théa Olivier pour le reportage. Merci beaucoup. Le bruit du monde, la suite, c'est l'actualité internationale passée sous les radars. Et c'est Sébastien Logeny.
find them and hold on tight.
Est-ce qu'on entend là Sébastien, voilà, oui, c'est une conférence de presse, une keynote de Facebook avec Mark Zuckerberg. Ouais. Facebook de nouveau attaqué en justice, cette fois-ci par un lanceur d'alerte sud-africain.
Oui, c'est un bras de fer qui met en lumière un aspect peu connu des GAFAM, ces géants du numérique, la sous-traitance de la modération des réseaux sociaux par des pays du Sud à la main-d'œuvre bon marché et mal organisée. Dans cette histoire, le plaignant s'appelle Daniel Motaung, un Sud-Africain de 27 ans. Il a été embauché il y a 3 ans par un sous-traitant de Meta, la maison mère de Facebook. Il est devenu modérateur en 2019 pour Sama à Nairobi au Kenya et il devait modérer les contenus en langue zoulou. On entend là Daniel Motaung. La première vidéo qu'il a dû regarder puis supprimer, raconte-t-il, était une vidéo de décapitation, des contenus ultra-violents qui ont provoqué chez lui un syndrome post-traumatique. Il dénonce des conditions de travail indignes, manque de soutien psychologique, salaire insuffisant, $118 par mois et puis des pressions managériales. Il a été licencié après avoir voulu monter un syndicat. La plainte a été déposée aux États-Unis à San Francisco. Les petites mains africaines de Facebook seront ont-elles entendu, comme leurs confrères américains, il y a 2 ans, Facebook a dû payer $52 millions à des milliers de modérateurs de contenu aux États-Unis.
Des soldats colombiens retenus par des cultivateurs de coca.
Ça se passe dans le Catatumbo, une région à la frontière avec le Venezuela, connue pour être le principal territoire producteur de drogue au monde, avec environ 40 000 hectares plantés de coca. Il y a 4 jours, près de 200 soldats colombiens étaient dans la ville de Tibou pour appliquer les directives du président Ivan Duque, éradiquer à la main les plants de coca pour lutter contre le trafic, mais les agriculteurs, les cultivateurs se sont immédiatement rebellés. La télé colombienne montre ici les images de cette scène incroyable. 120 soldats encerclés par des paysans armés de pierres et de bâtons, obligés de se retrancher dans leur caserne, immobilisés pendant 2 jours sans eau ni électricité. Un événement qui n'est pas le premier du genre. En octobre dernier déjà, 180 soldats avaient été retenus par des paysans dans une école, des cultivateurs que les autorités soupçonnent d'être manipulés par les ex-rebelles des FARC qui vivent largement du trafic de cocaïne. Plus de 1000 tonnes produites en 2020 en Colombie, premier exportateur mondial.
Et puis elle se déguise en livreuse de repas pour quitter la Russie.
C'est la véritable histoire de Maria Aliokhina, membre des Pussy Riot, le célèbre groupe contestataire russe poursuivi depuis des années par les foudres du Kremlin. Maria Aliokhina était menacée de prison ferme depuis le début de la guerre en Ukraine, condamnée pour avoir appelé à manifester contre l'arrestation d'Alexei Navalny quelques mois plus tôt. Alors plutôt que de se rendre à sa convocation au tribunal à Moscou, eh bien elle a fait le choix de faire ses adieux à Vladimir Poutine, comme elle le raconte au New York Times. Alors là, la voix qu'on entend, c'est la sienne, interviewée par nos confrères de Brut. Maria Aliokhina affirme avoir trompé la vigilance de la police russe grâce à un uniforme vert de livreur Delivery Club, un gros sac carré dans le dos, pas de téléphone portable sur elle pour ne pas être repérée. Elle a d'abord passé la frontière avec la Biélorussie. Puis une semaine plus tard, elle est arrivée en Lituanie. Elle vit aujourd'hui en Islande, à Reykjavik, avec sa compagne, une autre membre des Pussy Riot. Elles n'ont pas fui la Russie, disent-elles, mais elles sont parties en tournée avec un premier concert à Berlin le 12 mai prochain pour collecter de l'argent pour l'Ukraine.
Merci beaucoup Sébastien Logeni. Bien sûr, on se dit à demain. Je vous laisse partir avec une très très jolie reprise de California Dreaming des Mamas and the Papas. C'est celle de Bobby Womack. Elle date de 68.
All the leaves are brown and the sky is gray. I went for a walk on a winter's day. I'd be saving more if I was in L.A. On such a winter's day, went to a church yesterday. I stopped along the way. Well, I got down on my bended knee and I began to pray. You know, the preacher digs a call, 'cause he knows I'm gonna stay. He knows I'm gonna stay. So
Bobby Womack et sa version de California Dreaming sur France Inter. Le mercredi, c'est cinéma.
France Inter. Un jour dans le monde.
So, we start.
I was born in Detroit. My mother got a job on afternoons and.
Please, Mr. Foreman.
My father's working days.
Et le cinéma en VO s'intéresse aujourd'hui à l'Amérique sinistrée de la crise des subprimes. Nous allons à Détroit avec ce documentaire qui s'appelle Detroiters et qui nous raconte 15 ans plus tard comment la population continue de se bagarrer aujourd'hui pour s'en sortir. Bonjour Corinne Pellissier.
Bonjour.
C'est un portrait incarné, sans phare, mais plein d'espoir, à l'initiative d'un réalisateur français.
Voilà, il a 43 ans, il s'appelle André Shtekleff et dans ses documentaires, de Calais à Détroit en passant par la Bolivie, il nous montre les grands ratés du système et leur impact surtout sur les plus fragiles, les invisibles, les précaires. Alors évidemment, à Détroit, depuis la crise des subprimes, on a vu beaucoup d'images, de témoignages aussi qui glacent le sang, des maisons murées, des ruines, des rues désertes et des populations souvent des Noirs jetés à la rue. Le documentaire le raconte très bien avec beaucoup de témoignages, des habitants souvent avec lesquels André Shtekleff a vécu le temps de son voyage. Ils n'ont jamais quitté la ville de Ford et de la Motown. Il raconte l'ascension et la chute. Détroit a été la première grande ville américaine à se mettre en faillite après la crise des subprimes. 2 millions d'habitants dans les années 50, à peine plus de 600 000 aujourd'hui. Beaucoup d'épreuves pour se maintenir, mais aussi beaucoup de souvenirs.
Je pense que la crise des subprimes a juste été une marche en plus vers la descente aux enfers. Je pense que les années 90 ont été pires. Les riches sont partis, les emplois sont partis et sont restés là tous les Afro-Américains et on n'a plus rien donné à la ville. Parce que Détroit, c'est cette histoire-là qui se raconte aussi. C'est des gens qui ont quitté les champs de coton et donc l'esclavagisme du Sud pour monter dans le Nord, pour travailler et pour rentrer dans un système où on les mettait en lutte contre d'autres communautés, pour faire baisser les salaires, pour casser les grèves. Et ça, c'était le moment où Détroit était au summum, où la Motown explosait, où eux, ils étaient forts dans les usines, ils dominaient. Donc ça a été une sorte de pic comme ça de Détroit. Et j'ai voulu filmer cette génération-là qui avait connu tout ça, dans la situation actuelle, maintenant, de cette ville dévastée.
Mais alors quand même, Corinne, depuis 5 ans, la ville a commencé à montrer des signes de renaissance, non ?
Voilà, c'est très fragile et pour le moment, ce ne sont pas des conditions qui profitent à tout le monde. Plutôt un public blanc, éduqué, avec des revenus, des gens qui reviennent à Détroit pour essayer de relancer la ville. Mais ce que je trouve intéressant dans ce documentaire, c'est le travail de reconstruction de ceux qui sont restés, qui rachètent des maisons pour essayer de loger les plus fragiles, empêcher les promoteurs de faire du business sur la misère des gens. Ce sont des projets souvent tournés vers plus de justice sociale, avec des modes de vie plus éthiques, plus en phase avec la nature. On installe par exemple des panneaux solaires, des systèmes pour collecter l'eau, une sorte de Make Detroit Great Again plus inclusif. Dans les années 60, c'était The Place to Be, disent les anciens du doc. Évidemment, le chemin sera long et compte tenu de la situation, le projet paraît presque un peu utopique, mais il s'accroche.
Quand je suis arrivé à Détroit, j'ai rencontré des gens qui étaient dans la suite du mouvement Occupy. Et là, ils avaient repris un quartier qui était dévasté. C'était devenu une décharge, quoi. Il y avait 1 mètre de poubelle partout. Ils ont tout vidé, ils ont retapé les maisons. Je les ai rencontrés à ce stade-là et ils devaient être dans le film. Quand je suis revenu 1 an après pour le tournage avec l'équipe, le quartier était devenu tellement à la mode que la mairie les avait foutus à la porte et des promoteurs avaient repris avec, bien sûr, des choses comme quoi vous n'avez pas payé vos taxes d'habitation ou une facture ou un truc. Et ils sont partis. Et ce qui est beau, c'est que les gens qui sont dans la partie pauvre, donc l'immense majorité des habitants de Détroit, ils sont presque mis en sécession et dire, nous, on va essayer de créer des modèles de vie alternatifs. Donc il y a toute cette utopie qui est portée dans la ville et qui attire beaucoup. Ils se battent pas tant pour eux que pour le futur, et c'est assez hallucinant, et ils s'arrêtent jamais, parce qu'ils ont un principe comme ça de filiation et d'appartenir à une communauté qui perdurera. Et ce qui est drôle, c'est que c'est l'histoire de tout Détroit, et c'est la devise de la ville, c'est « elle connaîtra des jours meilleurs et elle se reconstruira de ses cendres ». C'est hallucinant.
Très beau documentaire, rythmé par des images d'archives, des témoignages et des chansons de la Motown, toujours utilisées avec beaucoup de justesse.
Ça donne envie, merci vraiment beaucoup Corinne Pellissier, ça s'appelle Detroiters, c'est au cinéma. Ce mercredi, Corinne, on se retrouve à Cannes, mercredi prochain, vous y serez donc nous presque.
Fabienne Synthès, le 18-20.
Le monde d'après de Jean-Marc Four. Jean-Marc, à la veille d'un sommet mondial sur le Covid, dont nous parlerons d'ailleurs ici même demain, les restrictions se lèvent un peu partout, comme en France où le masque n'est plus obligatoire dans les transports dès lundi. Partout donc, sauf en Chine, où la stratégie zéro Covid confine à l'entêtement et à l'aveuglement, avec des effets en chaîne potentiels sur toute la planète. C'est votre monde d'après.
Jusqu'à présent, vous savez, le patron de l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, Tedros Ghebreyesus, avait bonne presse à Pékin pour s'être montré plutôt indulgent sur la responsabilité chinoise initiale au début de la pandémie. Eh bien, c'est fini, au placard Ghebreyesus, parce que hier soir, à Genève, le patron de l'OMS a publiquement critiqué la stratégie zéro Covid de la Chine. Elle n'est pas soutenable, a-t-il affirmé. Il faut passer à une stratégie différente. Dans les heures qui ont suivi, la vidéo de son intervention a été abondamment partagée sur les réseaux sociaux en Chine. Et donc, ni une ni deux, ce matin, Pékin a réagi. Censure totale. Impossible désormais de trouver le moindre article sur les réseaux chinois Weibo ou WeChat. Même le mot-clé OMS a disparu. Et bien sûr, silence total dans la presse officielle. Relayer les propos de Ghebreyesus, ce serait admettre que le pouvoir chinois s'est trompé. Inconcevable, puisqu'il a érigé le zéro Covid en dogme. Donc Pékin s'obstine dans sa stratégie. C'est le reflet d'une crainte sanitaire en partie fondée, vu la faible efficacité des vaccins chinois contre le variant Omicron. C'est surtout le reflet d'une incapacité politique à se dédire. Donc, confinement radical maintenu, 400 millions de Chinois concernés, dans 46 villes dont Shanghai ou Pékin, et des mesures toujours plus strictes pour empêcher toute circulation dans les quartiers touchés.
Et l'effet en chaîne, Jean-Marc, c'est le ralentissement de l'économie?
C'est mécanique, un tiers du pays est à l'arrêt, en particulier des villes qui sont des poumons économiques. Sur le port de Shanghai, par exemple, il n'y a plus de place sur les quais, les conteneurs se sont accumulés. La croissance pourrait être révisée à la baisse de 2 ou 3 points, la consommation interne est plombée, les ventes d'automobiles ont plongé de 36% en un an. Le climat des affaires est mauvais, les PME se disent pessimistes, en particulier dans le milieu des services en Chine. Les exportations sont au plus bas depuis 2 ans. Ça, c'est pour l'intérieur de la Chine. Mais on le sait bien, quand l'usine du monde s'arrête de tourner, c'est toute la planète qui se met à tousser. Les chaînes d'approvisionnement sont très ralenties, voire à sec pour de nombreux composants un peu partout dans le monde. Les marchés financiers commencent à avoir des sueurs froides. Les entreprises étrangères présentes en Chine révisent toutes leurs prévisions à la baisse. Les pays occidentaux les plus dépendants de la Chine, comme l'Allemagne, voient l'inflation augmentée. Et puis le retard accumulé dans les livraisons ne sera pas résorbé avant plusieurs mois. Et encore, ça c'est l'hypothèse optimiste. C'est l'hypothèse où le confinement s'arrête et ça c'est pas gagné. L'impact économique du zéro Covid chinois peut devenir plus fort encore que celui de la guerre en Ukraine, pourtant déjà considérable.
Et tout ça, ça peut pas revenir à la figure du pouvoir chinois.
On n'en est pas là. Xi Jinping tient le pays, culte de la personnalité, système pyramidal, contrôle des promotions internes jusqu'au bureau politique du PC, censure des médias et des réseaux sociaux, on en parlait. Et pour relancer la consommation, calmer les esprits, le pouvoir commence à distribuer des coupons d'achat ou à promettre de baisser les taxes. Mais quand même, cet entêtement absolu à maintenir la stratégie du zéro Covid, quitte à boucler tout le pays, cet entêtement commence à irriter, surtout dans les grandes villes. Il y a quelques jours, de grands universitaires ont critiqué le confinement. À Shanghai, les protestations sont fréquentes pour dénoncer les problèmes d'approvisionnement en nourriture. La légitimité du pouvoir en Chine tient beaucoup au sentiment des Chinois que le pays se développe, que l'on peut sortir de la pauvreté pour accéder aux classes moyennes. Donc si l'économie se dégrade, il y a danger pour le pouvoir. Vous savez, le 20e congrès du parti, prévu en octobre, se présentait jusqu'à peu comme une simple formalité pour conforter le pouvoir absolu de Xi Jinping. Ça sera peut-être pas si simple finalement. Si l'obstination du zéro Covid plonge le pays dans l'impasse économique, des voix dissidentes pourraient finir par s'exprimer dans le secret opaque, évidemment, le secret des manœuvres du comité central du PC chinois. Xi Jinping est engagé dans un pari jusqu'au boutiste. Cet entêtement, ce refus du réel peuvent se retourner contre lui. Ça reste improbable, hein, entendons-nous bien. Mais le seul fait que ce soit possible est en soi un événement.
Le Monde d'après, signé Jean-Marc Four, tous les soirs dans Un jour dans le monde. Jean-Marc, merci beaucoup. Pour nous, ça continue le 18-20. La suite, c'est le journal d'Hélène Philly. Et puis, le téléphone sonne. Merci de passer la soirée avec nous. Ne changez rien.